Radio Prague, les informations. Bonjour, la Chambre des députés a de nouveau ajourné la ratification du traité de Lisbonne. Les Verts, quant à eux, s'opposent au débat sur l'implantation du radar américain sur le sol tchèque. Et enfin, Alexandre Vondra a répondu aux critiques de la presse française sur la présidence tchèque de l'Union européenne. Comme annoncé en titre, la Chambre des députés n'a donc une nouvelle fois pas décidé mercredi de la ratification du traité de Lisbonne. Le Parti civique démocrate, principale formation de la coalition gouvernementale, a obtenu en effet l'ajournement du débat. Le traité figurera de nouveau au programme de la Chambre basse du Parlement le 17 février prochain. 115 des 196 députés présents ont voté pour cet ajournement. Il s'agit notamment des membres des partis de la coalition gouvernementale, mais aussi des députés communistes. Selon le leader de ces derniers, Wojciech Filip, les députés devraient d'abord voter le projet de loi stipulant que le traité de Lisbonne doit faire l'objet d'un référendum. Politique toujours, le Parti des Verts tchèques est parvenu mercredi, avec le soutien des partis de la coalition, à ce que le projet d'installation d'une base radar américaine en République tchèque ne figure pas au programme de la session de février de la Chambre des députés. Selon les Verts, une des trois formations de la coalition gouvernementale, il convient d'abord d'attendre que la nouvelle administration américaine définisse sa position vis-à-vis de l'élargissement du système de défense antimissile américain. Le vice-premier ministre tchèque et ministre chargé des affaires européennes, Alexandre Vondra, a réagi suite aux articles publiés ces derniers jours dans la presse française qui remettent en cause les capacités du gouvernement tchèque à présider l'Union européenne. Alexandre Vondra s'en est pris notamment au président français Nicolas Sarkozy à Strasbourg, où il participait à la réunion du Parlement européen. Alexandre Vondra a déclaré que tandis que la France foisonnait d'idées et prétendait multiplier les sommets, la présidence tchèque, elle, travaillait dur pour qu'au moins quelques-unes de ces idées soient réalisées sans que cela entraîne un effondrement des finances publiques au sein de l'Union européenne. La station Europe Libre Radio Liberté a commencé mercredi à émettre depuis son nouvel édifice situé à Prague à Gibor. Les premières émissions diffusées sont celles de Radio Fruit Irak. Il s'agit de la première étape du déménagement de l'ensemble des 500 employés d'Europe Libre Radio Liberté qui quittent le siège actuel de la centrale située dans le bâtiment de l'ancienne Assemblée fédérale dans le centre de Prague pour s'installer dans un édifice de 5 étages dans le quartier de Strachnice à Prague. Il s'agit de l'un des édifices les plus protégés en Europe contre une éventuelle attaque terroriste. Météo pour finir, c'est un ciel voilé qui règne sur l'ensemble du territoire jeudi, jour de la fête des Dobromila. Les températures varient entre 1 et 7 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinski.
Les dernières informations, c'était avec Guillaume, et maintenant place à l'actualité. Nous débuterons avec les réactions tchèques à la critique de la politique familiale de la Tchéquie par le Parlement européen. Le sujet sera développé par Václav Richter. Ensuite, ce seront les mesures préconisées par le Conseil économique national du gouvernement pour faire face à la crise. Et Alena Gebertova poursuivra avec la journée de la lutte contre le cancer et la prévention contre cette maladie en Tchéquie. Nous terminerons ce magazine d'actualité avec Anna Kubichta et une exposition consacrée à Andy Warhol au Rudolfinum à Prague. Toute la rédaction vous souhaite de passer d'agréables moments en notre compagnie. Le Parlement européen critique dans son rapport sur la discrimination la présidence tchèque de l'Union européenne pour ses initiatives sociales. Le rapport reproche à la République tchèque d'imposer un modèle dépassé de la famille. Prague refuse cependant cette critique et la qualifie d'infondée. Václav Richter.
Le sommet de Barcelone en 2002 a fixé comme objectif la mise en place de structures d'accueil, c'est-à-dire d'écoles maternelles, de crèches et d'autres possibilités de garde d'enfants, pour 90% des enfants entre 3 ans et un âge d'être scolarisés, et aussi pour au moins 33% des enfants âgés de moins de 3 ans. La présidence tchèque de l'Union européenne envisage cependant de relancer le débat sur cette question ce jeudi à Prague lors de la réunion des ministres européens en charge de la politique familiale. D'après le ministre tchèque du Travail et des Affaires sociales Petr Nečas, il faut se demander dans quelle mesure les objectifs formulés par le sommet de Barcelone sont réalisables.
Il s'agit surtout d'imposer le principe du libre choix pour les familles. Chaque famille doit avoir la possibilité de décider librement si, par exemple, le parent qui s'occupe de l'enfant, c'est-à-dire dans la majorité des cas la mère, reprendra le travail après quelques mois seulement, ou au contraire, restera avec l'enfant à domicile pendant plusieurs années. Nous ne voulons pas pousser les familles à aucun modèle de comportement. Nous ne voulons pas imposer aux parents de rester à domicile ou de mettre leur enfant dans une crèche. Notre politique, dans ce sens, est très équilibrée et nous voulons créer toute une gamme de possibilités pour permettre à chaque famille de décider selon ses besoins et ses conditions concrètes.
Les critiques estiment par contre que la République tchèque oblige les mères à rester à domicile avec leurs enfants et à renoncer à leur carrière professionnelle. Ils insistent sur la nécessité d'élargir les structures d'accueil pour les enfants d'âge préscolaire. La présidente du lobby féminin tchèque, Alexandra Jachnová-Doležalová, souligne que ces structures manquent beaucoup en République tchèque.
Le nombre de crèches est très bas et il continue à diminuer. C'est dû également au manque de moyens financiers parce que les crèches ne sont financées que par les villes et les communes et ne sont pas subventionnées par l'État. Leur fonctionnement devient ainsi très cher et leur nombre est très bas. 25% des enfants de 2 ans fréquentent déjà des écoles maternelles. Cela démontre qu'un grand nombre de parents avec des enfants de moins de 3 ans aimeraient placer leur enfant dans ce genre d'établissement.
La critique du Parlement européen a été rejetée notamment par les eurodéputés du Parti civique démocrate, ODS, leader de la coalition gouvernementale, qui la considère comme une attaque politique contre la présidence tchèque de l'Union européenne. L'eurodéputée Zuzana Rojtová laisse entendre qu'il pourrait s'agir même d'une espèce de revanche pour l'installation Entropa, œuvre très controversée par laquelle la Tchéquie orne pendant sa présidence le hall du Conseil de l'Union européenne. Richard Falbr, eurodéputé du Parti social-démocrate tchèque, estime en revanche que la critique du Parlement européen est tout à fait justifiée et se demande pourquoi il faudrait rouvrir un débat sur des objectifs déjà approuvés.
Le Conseil économique national du gouvernement, dans son choix des mesures recommandées pour faire face aux retombées de la crise financière mondiale, vise un objectif prioritaire, empêcher la montée du chômage en République tchèque. Quelles sont donc les mesures qu'il propose au gouvernement? Le Conseil économique national du gouvernement a été créé au début de cette année pour, comme son nom l'indique, conseiller le gouvernement dans sa politique de lutte contre la crise mondiale. Il est composé de 10 membres, en majorité des experts en économie. Le Conseil se réunit une fois tous les 15 jours en général, et ce lundi, c'était sa deuxième réunion en présence du ministre des Finances, Miroslav Kalousek. À la différence d'autres pays, le Conseil ne propose pas d'injections financières massives dans l'économie ou de gros investissements publics. Il recommande aux différents ministères de prendre des mesures qui renforceraient la position financière des sociétés et de l'entreprise en général. Le quotidien Lidovenovini a publié la liste des mesures qui devraient être adoptées. Elles sont divisées en 6 groupes. Le soutien du cash flow des entreprises, le soutien à l'emploi et à la consommation de la population, le soutien des dépenses infrastructurelles rapides, des mesures écologiques et des investissements privés, le soutien des processus de restructuration, le soutien de la revitalisation des canaux de crédit pour les entreprises et le soutien aux exportateurs. Parmi ces mesures, la priorité est donnée à la politique de l'emploi et au crédit bancaire pour les entreprises. Jiří Rusnok, membre du Conseil, révèle comment faciliter ces derniers.
Il faut tout d'abord augmenter au maximum les capacités financières des institutions de garantie, donc de la Banque tchéco-morave de garantie et du développement ou de la Banque d'exportation tchèque. Elles doivent disposer de plus de capital pour être capables de participer à plus de projets. Mais il faut aussi changer les critères, permettre des crédits pour le bon fonctionnement des entreprises, élargir l'offre des crédits à des modèles dont les entreprises ont besoin actuellement.
Rozšířit to na další podoby úvěru, které ty podniky dnes nutně potřebují.
Selon un autre membre du Conseil économique national du gouvernement, Yeji Schwartz, il existe un grand nombre d'autres mesures indispensables, comme par exemple l'accélération du processus de remboursement de la TVA aux sociétés. Il explique.
Les sociétés pourraient ainsi augmenter plus rapidement leur compétitivité, et dans le cas de notre économie qui est basée sur l'exportation, cette mesure contribuerait à relancer la production locale, ce qui serait également positif pour la politique de l'emploi.
Le Conseil économique national du gouvernement vient donc de présenter un plan de mesures à réaliser pour contrer les effets de la crise mondiale sur l'économie tchèque. Que va-t-il en advenir ? Réponse du ministre des Finances, Miroslav Kalousek.
Nous nous sommes mis d'accord sur des mesures concrètes et des priorités et nous ferons tout pour que le Premier ministre les présente encore lors de la séance actuelle de la Chambre des députés, afin que nous puissions réaliser ce plan national de crise dans les plus brefs délais.
Ces mesures, qui sont bien vues en général, seront-elles suffisantes pour arrêter le licenciement en Tchéquie et relancer son économie ? L'avenir le dira. Si ce plan de crise, dont la réalisation nécessitera l'adoption d'amendements ou de nouvelles lois, est adopté par le Parlement. La République tchèque se joint à la journée mondiale de lutte contre le cancer qui tombe ce mercredi 4 février. Une occasion de sensibiliser l'opinion publique sur l'importance de la prévention. Alena Gebertova pour plus de détails.
Plus de 70 000 nouveaux cas de cancer sont dépistés annuellement en République tchèque, environ 100% de plus que dans les années 70. Chaque année, on enregistre près de 28 000 décès qui sont d'origine oncologique. Les cancers du sein, de l'intestin et du poumon sont les plus fréquents. En ce qui concerne le cancer de l'intestin, la Tchéquie détient la triste primauté dans la fréquence de ce type du cancer à l'échelle mondiale. Le professeur Luboš Petruželka, spécialiste en oncologie, explique.
Cette augmentation du nombre de maladies oncologiques a plusieurs raisons. D'abord, la population vieillit et l'âge, comme on le sait, est en lui-même un facteur de risque. Parmi les autres facteurs qui sont tout aussi décisifs, il faut mentionner le style de vie. Le cancer est une maladie de civilisation, alors on voit que plus une société est développée, plus il y a de risques encourus.
Selon le professeur Petruželka, un rôle primordial revient aux praticiens, qui sont appelés à diagnostiquer les premiers stades de la maladie et à identifier les populations qui sont menacées par des dispositions génétiques. Celles-ci devraient par la suite consulter des établissements spécialisés qui sont à la disposition. Ce qui fait en revanche défaut, c'est le niveau de l'information. La journée des luttes contre le cancer est un des outils pour parler de l'importance de la prévention. Simona Součková du réseau des médecins praticiens engagés dans des programmes préventifs.
Aujourd'hui, nous offrons à tous ceux qui le veulent des tests préventifs, car la prévention est effectivement nécessaire pour combattre la maladie. Nous acceptons même les personnes de moins de 50 ans qui n'ont aucun problème, mais qui veulent tout simplement être sécurisées. Les personnes de plus de 50 ans ont droit à des tests préventifs à titre gratuit.
Les oncologistes tchèques constatent beaucoup de nouveaux médicaments efficaces ont été développés au cours des dernières années en rapport avec la découverte des processus moléculaires qui sont à l'origine des maladies oncologiques. La prévention et une identification précoce de la maladie demeurent pourtant des conditions incontournables pour leur guérison.
Jusqu'au 5 avril, la galerie du Rudolfinum à Prague présente une exposition inédite sous le titre de Andy Warhol Motion Pictures. Détail avec Anna Kubishta.
Andy Warhol, c'est la sérigraphie, les boîtes de conserve Campbell's, les visages de Marilyn Monroe et Liz Taylor, colorés et démultipliés, mais aussi ceux de Mao Tse-tung ou Lénine. Andy Warhol, c'est le symbole du pop art, c'est le Velvet Underground et la Factory. Ce que l'on sait moins peut-être, c'est que c'est dans cette même Factory que ce fils d'émigré slovaque a tourné plusieurs films expérimentaux, des courts ou très longs métrages, parfois sans vrai scénario, largement improvisés. Une vingtaine de ses tableaux vivants sont exposés à la Galerie du Rudolfinum. Parmi eux, de très courts métrages réalisés entre 1964 et 1966 et consacrés aux portraits, comme l'explique Petr Nedoma, directeur de la galerie.
Les screen tests, ce sont des films qui durent 4 minutes. Ce sont de courtes prises de vue sur des gens qui étaient célèbres, voulaient être célèbres ou sont devenus célèbres ou alors ne le sont jamais devenus. Mais ils sont dans les films de Warhol, donc on peut dire qu'ils sont connus maintenant. Ces films sont présentés comme des tableaux accrochés au mur. Vous n'êtes pas assis au cinéma dans le noir, coupé de la réalité. Vous êtes dans une galerie avec une lumière tamisée, les films sont dans un cadre noir, ils sont muets, et vous pouvez circuler en regardant un ou plusieurs à la fois.
S'y côtoient notamment le comédien Dennis Hopper, l'écrivaine Susan Sontag ou encore Lou Reed, figure du Velvet Underground dont Andy Warhol sera le producteur. 3 ans et demi, c'est le temps qu'il a fallu pour monter cette exposition, résultat d'une collaboration avec le célèbre MoMA de New York. Petr Nedoma.
Muzeum moderného umění v New Yorku vlastně iniciovalo.
Et le musée d'art moderne de New York a en fait été à l'origine de la numérisation des films de Warhol qu'il avait légué au musée après sa mort. On savait que le film Sleep durait 8 heures, même si en réalité il ne dure que 5 heures. Tout le monde a entendu parler du film Empire, où une caméra a été plantée pendant 8 heures sans bouger, mais personne n'avait jamais vu ces films. Grâce à la numérisation, c'est chose faite, sinon vous ne pouvez pas faire tourner ces films en 16 mm pendant toute une journée.
Dans ses films, Andy Warhol applique la même méthode que pour ses toiles. Une même scène peut être répétée à l'envi pendant toute la durée du film. Dans Sleep, par exemple, on y voit le même homme dormir pendant une vingtaine de minutes et cette même séquence est démultipliée. À la galerie du Rudolfinum, ces 5 heures ont toutefois été compressées en un peu moins d'une heure. Et ces screen tests peuvent être compris comme la version animée de ses portraits sérigraphiés. Ces films expriment la fascination d'Andy Warhol pour le temps, inextricablement liée à celle qu'il éprouvait pour la mort. Il suffit de penser à ces représentations d'accidents de la route exposées à Prague, justement, en 2007, dans le cadre du musée de Kampa. Tout de suite, je vous propose un extrait d'une chanson de Nico, égérie du Velvet Underground, et qui évoque justement le temps qui s'égrène.
C'est la fin du magazine d'actualité sur Radio Prague et passons maintenant à l'histoire.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
La beauté de la phaléristique européenne, ordre et décoration, est le titre d'une exposition inaugurée ce mardi au Palais Hrzan à Prague. L'exposition est l'une des manifestations culturelles organisées par la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne, qui a fait venir cette fois à Prague les ordres et distinctions de tous les 27. C'est la première fois qu'il est possible de voir ensemble ces bijoux issus des différents pays. Plusieurs décorations étrangères prouvent un lien étroit avec l'histoire tchèque. Certaines d'entre elles ont été décernées au roi de Bohême et au chef d'État tchèque, et tout offre une leçon d'histoire européenne commune.
Thank you.
Des objets uniques de grande valeur sont à voir derrière le verre blanc des vitrines au palais Hrzan. Non seulement la majorité d'entre eux n'a jamais été exposée en Tchéquie, mais beaucoup ne sont exposés nulle part, observe l'auteur de l'installation, Jiří Filler.
Některá vyznamená, některá zde jsou ukázána se v muzeích v Evropě.
Toute une série de distinctions que nous montrons ici, on ne les trouverait dans aucun musée d'Europe.
V Evropě vůbec nenacházejí.
Parmi les plus grandes raretés de cette exposition figure l'ordre de l'éléphant, qui est un ordre danois, institué en souvenir de la bravoure d'un croisé danois qui avait tué un éléphant dans une bataille contre les Saracens en 1189. Cet insigne en émail blanc, suspendu à un ruban bleu moiré, est une décoration discrète qui fait plus penser à un jouet d'enfant. Sa valeur est toutefois immense et il a fallu le consentement personnel de la reine Marguerite II du Danemark pour que la décoration soit prêtée à Prague, car pour les Danois, elle représente la même valeur que les joyaux de la couronne pour les Tchèques. Cet ordre est décerné exclusivement aux princes de sang royal et aux chefs d'État étrangers. L'histoire tchèque connaît de très rares détenteurs de cet ordre. À part l'astronome à la cour impériale de Prague, Tycho Brahe, d'origine danoise, on compte le maréchal impérial Karel Schwarzenberg, ancêtre de l'actuel ministre des Affaires étrangères, qui a vaincu Napoléon au cours de la bataille de Leipzig, puis encore le premier président tchécoslovaque, Tomáš Garrigue Masaryk. L'ordre de l'éléphant est l'un de ceux qui ne figure dans aucune collection du monde car il n'est prêté à son lauréat que durant sa vie. L'exposition « La beauté de la phaléristique européenne » n'est pas que de cet ordre. Dans les vitrines brille la plus haute distinction honorifique française, l'ordre de la Légion d'honneur, institué en 1802 par Napoléon Bonaparte, puis la double croix blanche, qui est la plus haute distinction de la Slovaquie. On peut aussi admirer l'ordre britannique du Bain, créé en 1725 par Georges Ier. L'ordre suédois de l'étoile polaire ou l'ordre de la reine Isabelle de Castille. Les panneaux évoquent d'autres distinctions glorieuses comme l'ordre de la Toison d'or qui est une décoration européenne liée à la dynastie de Bourgogne, des Habsbourg et des Bourbons. L'ordre de la jarretière est probablement le plus populaire, un ordre de la chevalerie anglaise, fondé en 1348 par Édouard III d'Angleterre et qui se réfère, selon la légende, à la comtesse de Salisbury qui aurait perdu une jarretière au cours d'un bal, rendant cet accessoire dûment célèbre. Certaines décorations européennes exposées actuellement à Prague mettent en évidence un lien inespéré avec l'histoire tchèque. Ainsi, la plus haute décoration de Lituanie, l'ordre de Vytautas le Grand, grand-duc de Lituanie au XVe siècle, a des origines tchèques en raison de la parenté de celui-ci avec le roi de Bohême Ladislas Jagellon. Les apôtres slaves, Cyril et Méthode venus vers 863 en Grande-Moravie pour y propager le christianisme, sont représentés sur une haute distinction de Bulgarie, la croix du mérite de l'ordre des saints Cyril et Méthode. L'ordre britannique du Bain, déjà mentionné, porte la devise du roi de Bohême, Jean de Luxembourg, « Ich dien », ce qui veut dire « je sers ». Toute la vie de Jean de Luxembourg était guidée par cette devise jusqu'à sa mort pour la couleur de la France pendant la bataille de Crécy, souligne l'auteur de l'exposition Jiří Filler.
Au moment de sa mort, le 26 août 1345, dans l'une des batailles de la guerre de Cent Ans, près de Crécy, cette devise a été empruntée par le roi d'Angleterre, Édouard III, qui allait la remettre à son fils. Et c'est ainsi que la fameuse devise du roi de Bohême se retrouve non seulement sur les armoiries des princes de Galles, mais aussi sur l'étoile de l'ordre britannique du Bain.
Comme le complète le directeur du Musée national de Prague, Michal Lukeš, l'ordre du Bain a été prêté pour cette exposition. Des collections de ce musée, un nom politique tchèque connu, a l'honneur de le porter.
Le musée national a prêté plusieurs ordres, mais le plus précieux est sans doute l'ordre britannique du Bain, car c'est l'unique exemplaire tchèque, et il provient de la décoration qu'a reçue l'ancien président Václav Havel.
L'exposition propose également le meilleur des décorations et des ordres de la République tchèque. L'un des 4 exemplaires conservés jusqu'à ce jour de la noble croix de Bohême que l'empereur autrichien François Ier a décerné à 40 aristocrates tchèques qu'il avait accompagnés lors d'une expédition militaire contre Napoléon à Austerlitz. La plus haute distinction tchèque, l'ordre du Lion blanc, était prêtée pour l'exposition par l'Institut d'histoire militaire de Prague. On écoute son directeur Aleš Knížek.
L'Institut d'histoire militaire possède l'une des plus importantes collections d'ordres et de décorations en République tchèque. Et ce n'est donc pas un hasard qu'il ait prêté les plus hautes distinctions de l'État. L'ordre du Lion blanc de 1922 et sa version plus récente de 1961 pour cette exposition unique et vraiment très spéciale.
L'exposition présente également le deuxième dans la hiérarchie des ordres tchèques, l'ordre Tomáš Garrigue Masaryk. Les visiteurs pourront admirer ces ordres sur des figurines, une façon d'illustrer la manière de porter. L'exposition des décorations et ordres européens est à voir au Palais Rzan à Prague jusqu'au 1er mars prochain.
C'est la fin du programme d'aujourd'hui de Radio Prague. Rendez-vous à l'écoute d'une prochaine émission.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz.